l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition,
chansons,
gastronomie.
Bonjour Chantal, bonjour Alain, bonjour Laurent.
Bonjour Jean, Chantal, Laurent.
Bonjour à tous les deux.
C'est un vrai bonjour, hein, puisque c'est le début de l'année.
Voilà. 2010. Alors, simplement une petite rectification par rapport à l'annonce qu'on vient d'écouter. L'émission que nous enregistrons sera transmise les 18, 21... Jeudi 18, dimanche 21, non, lundi 18, jeudi 21
et le 24.
Et dimanche 24,
voilà.
Janvier.
Et il y a toujours possibilité aussi de les écouter sur le site internet de Couleur FM ou au moment des diffusions que tu viens d'annoncer ou sur le site d'INIS au moment choisi. Voilà.
Absolument.
Site de Couleur FM qui est www.radiocouleurfm.fr et celui d'INIS www. J'en ai pas dit un trop, non.
Non.
italienorisère.com.
Les W vont par trois.
Voilà.
C'est une référence trinitaire, tout à fait dans les habitudes dominantes.
Voilà, alors on entame notre 15e année.
Ah oui, c'est vrai.
D'émission de radio.
Oui.
On en reparlera bientôt.
Bien.
C'est un bon chiffre, 15.
C'est un, je ne sais pas, oui.
Oui,
oui c'est un
oui,
bon chiffre.
Je crois, oui, oui.
Je crois, oui.
Mmh. Oui, oui. On a 15 ans.
Mmh, on a 15 ans.
On entre dans l'adolescence. On a 15 ans, on vient de fêter notre 20e anniversaire, mais
oui.
On n'a que 15 ans de radio.
Voilà.
Par contre, bon. Il y a 15 000 habitants dans une commune de Calabre dont on va parler. Alors, je ne sais pas si c'est un bon signe, justement, mais... de Rosa Arnaud, et on en a entendu un tout petit peu parler sur les antennes françaises, mais vraiment brièvement, de façon pas obligatoirement très, très intéressante d'ailleurs.
Non, ni très exacte.
Ni très exacte. Ni... Voilà, bon, on a décidé aujourd'hui de...
d'en parler un petit
d'en
peu.
Parler un petit peu.
Alors, avant de parler directement des événements de janvier, un rappel de ce qui s'est passé en mai 2009 à Rosa Arnaud. Parce que ça illustre bien ce qui s'est passé en janvier. En 2009, le 19 mai 2009, la presse annonçait que 3 entrepreneurs agricoles de Rosa Arnaud ont été arrêtés, de même que 2 citoyens étrangers étaient recherchés par les carabiniers parce qu'accusés de faire partie d'une association délinquante qui avait comme but de réduire en esclavage, je cite, hein, de favoriser l'immigration clandestine et d'induire à la prostitution et à l'extorsion. Alors, c'est intéressant parce que ces 3 personnages, ces 3 entrepreneurs appartenant à une association de délinquance, c'est évidemment des chefs mafieux de l'Andrangheta locale. Et c'était un aspect de toute une enquête des carabiniers qui durait depuis déjà longtemps et qui se portait sur les conditions de vie des travailleurs, des 1500 travailleurs étrangers, 1500 pour 15 000.
Maintenant, on dit même qu'ils sont 4000.
Oui, non, oui, mais pas 4000 sur la commune. Non, mais bon, enfin, peu importe. Déjà 1500 sur 15 000.
C'est déjà beaucoup.
Et dont des centaines, disait-on déjà en mai 2009, ont trouvé refuge dans un grand baraquement, une sorte de bidonville privé de tout service, doté d'un seul centre sanitaire, des volontaires de Médecins Sans Frontières. C'est-à-dire qu'ils n'avaient ni eau, ni gaz, ni électricité, ni toilette, rien. Rien, et ils vivaient là-dedans. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que le problème a éclaté.
Il n'est pas nouveau, en fait.
On va voir
est...
pourquoi, mais c'est un problème que tout le monde connaissait très bien et sur lequel on n'avait jamais rien fait. arrêté trois entrepreneurs en mai 2009. Alors, tu nous rappelles les... Alors,
j'avais rappelé les faits, ceux qu'on a essayé de décortiquer, notamment sur la presse italienne. Et donc, on l'a dit, une ville de 15 000 habitants en Calabre, donc le pays, la région là, très au sud de l'Italie, la plus au sud à part la Sicile, et puis les îles autour de la Sicile.
Oui, c'est dans la plaine de Gioiata.
Exactement. Et c'est une région donc, où il y a beaucoup d'oliviers, de tomates, de fruits et de légumes, on va dire. Qui, depuis 20 ans, parce que ce n'est pas nouveau non plus, a des travailleurs dits, entre guillemets, clandestins. Tous ne sont pas clandestins. Là aussi, on les appelle clandestins. En fait, il y a à la fois des clandestins, des gens qui ont leurs papiers, puis peu importe, disons que ce sont des gens qui viennent travailler.
Qui avaient des permis de séjour, des permis de travail. Et il y avait des réfugiés politiques.
Voilà,
donc il y avait des papiers légaux.
Qui, pour la plupart, parce que suivant les régions d'Italie, de France ou d'Espagne, ce ne sont pas toujours les mêmes origines. Là, ce sont souvent des gens d'Afrique noire qui viennent dans ces régions. Et donc, je ne sais plus si c'était le dimanche, enfin peu importe le jour en question, une ou deux personnes, apparemment jeunes, ont tiré un coup de carabine à air comprimé, enfin un petit plomb sur un des... Enfin, ils n'en visaient pas un spécialement, mais ils ont tiré dans le tas, comme on dit, vulgairement, et ils ont blessé un de ces travailleurs en train de ramasser des oranges.
Oui, parce qu'une des grandes cultures de Lozère,
c'est l'orange.
C'est les agrumes.
Tout
c'est
à
les
fait,
oranges.
Notamment les oranges.
Les mandarines et les. Je ne trouve plus le mot. L'autre.
Pamplemousse.
Non.
Non, il n'y a pas de passé.
Les bergamotes.
Voilà.
Les bergamotes.
Donc, suite à ce coup de feu, les immigrés donc de cette région se sont manifestés. Et ils sont venus en masse dans la ville, en détruisant pas mal de magasins et de choses. Enfin, comme toute manifestation
oui,
qui tourne
sur
des voitures.
Et puis les poubelles, ils ont saccagé les poubelles.
Donc, suite à cette réaction, une partie de la population s'est elle aussi manifestée de façon violente. Donc, il y a eu des heurts. Et la police est venue régler ces heures, mais qui ont duré bien 48 heures. Voilà. Alors après, évidemment, on peut en parler longtemps, parce que là, ce sont les fêtes, mais les fêtes sont toujours la conséquence tu parlais du mois de mai, mais d'une économie, d'une région, du nord et du sud de l'Europe et le sud du monde tout court. Et donc voilà, ce qu'on en a dit au niveau de la télé et radio française, c'est surtout, on a surtout présenté ça comme les Italiens sont des racistes, etc., etc. Bon, il y a malheureusement des Italiens racistes, comme il y a des Français racistes, des Espagnols racistes. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait plus ou moins. Je pense qu'on... Ce qui est peut-être nouveau en Italie, c'est que c'est vrai que ce qu'on appelle le racisme en général est plutôt quelque chose qui date peut-être moins que dans d'autres pays, qui est plus récent, on va dire. Le développement est peut-être plus récent. Hein. C'est,
oui.
Ça, c'est vrai. Après, qu'il y ait plus ou moins de racistes en Italie ou en France, il y en a toujours trop, de toute façon. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait plus qu'en France. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait moins non plus, d'ailleurs. Et puis, il y a le problème de toutes ces régions... du sud de pays d'Europe, comme la France ou l'Espagne y compris, où il y a des gens qui viennent travailler pour une misère, parce qu'ils passent d'une misère à l'autre, en fait.
Ils travaillaient quand même 15 heures par jour.
Pour 20 euros, quoi.
Pour 20 euros, dont ils donnaient
5 euros.
5 au chef de la mafia locale, voilà. Et 1 ou 2 euros aux camionneurs qui les transportent
voilà.
De leur baraquement jusque dans les champs.
Voilà, donc on passe d'une misère à l'autre.
En fait, c'est de l'esclavage.
Mais c'est de l'esclavage moderne.
C'est le terme officiel qui a été utilisé, y compris par le procureur de la République, qui a dit que c'était une réduction en esclavage. Et donc, ils avaient quitté un enfer pour un enfer.
Pour en trouver un autre enfer. Ce que disait d'ailleurs très bien un évêque italien, en fait, c'est des pauvres qui vont retrouver la pauvreté ailleurs. Sachant que la Calabre, en plus, c'est que autant les régions du nord de l'Italie sont parmi les plus riches d'Europe, autant les régions la Calabre, notamment, est une des régions les plus pauvres d'Europe.
Oui. Et puis, les entrepreneurs du nord, ils votent pour la Ligue racistes, mais leurs travailleurs étrangers, ils savent qu'ils en ont besoin et ils les entretiennent, disons, pas bien, mais mieux. Ils les payent mieux et ils les logent ou les font vivre de façon moins inhumaine. Quoi.
Absolument.
C'est alarmant parce qu'en fait, on ne progresse pas à ce niveau-là. Quoi.
On ne progresse absolument pas.
On régresse.
On régresse. Et puis Jean citait le nom de la fameuse Ligue du Nord dont on parle souvent, qui, bon, il faut savoir, est importante, mais en électeur, à quoi en moyenne, je parle des élections nationales, 8% des voix peut-être. Mais comme le vote n'est pas majorité absolue en Italie, il y a une installation aussi de proportionnelle. Donc c'est une force d'appui pour le gouvernement qui est en place. Donc à partir de là, c'est presque un passage obligé, j'allais dire, hein, dont on se passerait bien. Et donc tout ça peut plaider, mais sachant aussi que des Ligue du Nord, sous d'autres noms, il en existe aussi dans d'autres pays d'Europe. Et c'est là le gros problème. Quoi.
Alors, par rapport à ce qui a été dit sur les médias français, il y a quand même des choses à souligner. Entre autres, en décembre 2008, il y avait déjà eu un incident semblable. Mm-hmm. C'est-à-dire une voiture qui passe, il y a les jeunes Africains noirs, ils viennent du Ghana, du Sénégal, du Nigeria, etc. Ils rentrent du boulot, la voiture passe et leur tire dessus. Et alors, qui est-ce qui tire? Parce que c'est là qu'est l'ambiguïté. Voilà. Qui est-ce qui tire? Et le substitut du procureur a été très très clair. Il dit, qui a fait ça? C'est pas les habitants du pays, c'est des jeunes hommes de main qui sont au service des mafias locales et qui entrent en action quand on le leur demande, parce qu'ils sont payés pour ça.
Mais payés pour supprimer des personnes?
Non.
Quel est l'intérêt?
Non,
de
parce que justement les débuts de l'enquête, enfin des réactions pour en parler parce qu'il y en a eu plusieurs. Mais le début de l'enquête sur cette affaire qui est bien triste semble dire que si, vu le nombre d'armes qui existent dans cette région, parce que les armes circulent s'ils avaient voulu réellement tuer, ils auraient pris une arme pour tuer. Or, ils ont pris une arme, à la limite, c'est presque une manifestation qu'ils ont orchestrée. C'est-à-dire, on envoie des hommes de main pour créer, créer la confusion, un climat de haine, de terreur, etc.
Et puis,
et tout ça, une manipulation énorme qui fait que les gens, évidemment, quand ils sont blessés, et surtout vu leurs conditions de vie, se révoltent, ce qui me paraît...
C'est-à-dire, il y a un moment où ça explose, quoi.
Le trop, c'est le trop.
Alors en fait, est-ce que le but final, ce ne serait pas de provoquer justement des heurts avec, pour déstabiliser pour,
Oh là, je crois qu'ils ont tiré parce qu'on leur a demandé de le faire.
Sachant que les personnes vont se rebeller. Est-ce qu'il n'y a pas là-dessous...
Pour qu'il y ait derrière une récupération politique et autre.
Parce qu'il doit bien le savoir que ça va provoquer des heurts entre...
Oui, mais c'est eux qui les font venir, les immigrés. C'est eux qui les font venir. C'est la mafia qui organise, qui livre les travailleurs.
Ils vont les chercher.
Immigrés. Oui, dans des conditions invraisemblables, souvent.
Ouais, c'est assez bizarre.
Et pourquoi? Parce que les agriculteurs en ont besoin. Mais il faut maintenir la pression sur ces travailleurs qui vivent dans des conditions. Mais les descriptions qui ont été faites à ce propos sont inimaginables. Inimaginable.
Le simple fait que pour avoir des conditions décentes, il faut des interventions d'Amnesty International ou de Médecins Sans Frontières, ça situe bien le problème.
Bien sûr.
Alors le problème, c'est que tu dis agriculteur, et c'est un autre problème, ça, mais qui existe dans nos pays, disons, méditerranéens, c'est qu'il y a agriculteurs et agriculteurs. C'est-à-dire qu'il y a ce type d'agriculteur qui, effectivement, a main d'œuvre très basse, dans des conditions horribles.
Est-ce que ce sont des petits agriculteurs non, ou des grands propriétaires?
Non, bien sûr que non.
Ce sont des grands propriétaires.
Bien sûr, le petit agriculteur
du... Ouais.
Le petit agriculteur du coin, souvent, il... je ne dis pas qu'il crève de faim, mais il a des conditions de vie difficiles, quoi. C'est très complexe.
Et ils ont tous besoin de cette population immigrée, d'une part, mais parce qu'aucun Italien ne veut travailler dans ces conditions, ramasser des oranges, des agrumes. Et puis, en même temps, il faut faire pression sur ces travailleurs africains pour qu'ils ne rouspètent pas, pour qu'ils acceptent ces conditions et de logement, et de travail, et de salaire. Et donc, probablement, à un moment où c'est des jeunes, c'est les hypothèses qui sont faites, c'est des jeunes qui sont des jeunes de la mafia qui se sont laissés aller. Ils ont eu de paf, paf. Ils ont, en décembre 2008, ils avaient tiré à coups de pistolet. Mmh. Enfin, il y avait eu des blessés. Et là, c'était, comme tu as dit, des fusils à air comprimé. Mmh. Et puis, il semble que, par ailleurs, il y ait le problème de ces 1500 personnes qui sont tous des hommes.
Oui, en plus.
Il y a ça aussi. Mmh. Donc, ça crée dans ce village, qui est un petit village, 15 000 habitants. Mmh. C'est pas...
Petite ville.
L'île d'Abo.
À peu près, l'île d'Abo. Qu'est-ce qu'ils font quand ils viennent en ville? Ça inquiète les gens.
La peur de l'autre.
Il y a la peur de l'autre.
Qui est entretenue aussi.
Mais de toute manière, ils disposent de peu d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils iraient faire dans la ville?
Non, mais justement, c'est bien là où la peur s'installe. La peur qui est souvent mal fondée, hein,
oui,
bien sûr, infondée.
Si,
mais en fait, leur méthode leur saute à la figure.
Mais elle saute à la figure
de tout le monde.
Des gens qui ne sont pas, eux, responsables, souvent.
Bien sûr, bien sûr.
Et puis d'eux aussi, parce que ça a attiré quand même l'attention, sur le plan international.
Oui, ce qui fait qu'on a... Il y a eu des réactions, des réactions du Caire. Le Caire vient de publier, le ministère du Caire vient de publier une condamnation des épisodes racistes, je cite, à l'égard de minorités arabes et musulmanes. Alors, Bossi a répondu que... Eux, de toute façon, ils
maltraitent les chrétiens.
Ils maltraitent les chrétiens, donc il n'y a pas de problème. Mais le ministre des Affaires étrangères italien, qui est actuellement au Moyen-Orient et en Égypte, a demandé à rencontrer le ministère égyptien pour lui expliquer que c'était pas du, il n'y avait pas de manifestation anti-égyptienne et qu'il ne fallait pas s'inquiéter et qu'on ferait respecter la légalité, etc. Et même Maroni, qui est le ministre de l'Intérieur, qui est de la Ligue du Nord, a fait évacuer la presque totalité. On a évacué 1200 travailleurs africains qu'on a envoyés de l'autre côté de la Calabre. Et il a promis que même ceux qui n'avaient pas de papier ne seraient pas expulsés. Parce qu'il sent très bien, il y a eu une interrogation, il y a eu un très bel article de Scalfari, l'ancien, le très vieux journaliste et créateur de la Repubblica, qui pose des questions et dit « Mais comment ça se fait que cette situation qui était connue depuis longtemps, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Intérieur, le ministère spécialisé dans ces affaires, ne soit jamais intervenu, n'ait jamais rien fait ?» Alors Maroni dit « Non, non, mais ce n'était pas mon problème, c'était le problème des administrations locales qui disent non. » c'était pas notre problème parce que nous, on n'a pas les moyens de traiter ce genre de problème. Et donc, c'est vrai qu'on a laissé s'accumuler des travailleurs immigrés. Il y a une loi anti-immigrés, c'est très amusant. Il y a une loi Bossi Fini. Mais en fait, on est obligé de laisser rentrer des dizaines de milliers de travailleurs immigrés. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de cette main-d'œuvre. Ils ne viennent pas comme ça. Il y a besoin de cette main-d'œuvre, d'une part, et puis il y a le problème africain, quoi, qu'on n'a pas pris en compte. Il y a une poussée. Les gens sont prêts à n'importe quoi pour échapper dans certains pays, à la dictature.
Et puis, de toute façon, quand on n'a plus rien à perdre, parce que on est dans la désespérance.
Surtout que là, ils passent d'une. Là, on disait qu'ils étaient pour les oranges en Calabre. mais ils ne repartent pas, puis ne reviennent pas. Non, ils passent d'une région à l'autre, en fait. C'est-à-dire là où ils peuvent trouver un semblant de travail, parce que, ben, comme tu dis si bien, quand on est désespéré, on va où on peut. Comme...
Au risque de sa vie, peu importe. Mais
on estime qu'il y a dans toute cette région 20 000 immigrés qui naviguent
d'une région à l'autre,
d'un village.
Soit pour les olives, voilà, soit pour les oranges,
selon les
comme au sud de l'Espagne et en partie au sud de la France.
Et il y a 15 ou 20 ans que ça dure, quoi.
Ouais, ouais. Mais par contre, il y a 20 ans, il n'y avait pas de problème particulier, quoi.
Non, et...
Ce qui veut bien dire quand même qu'on est dans une époque qui
oui,
se...
Oui, peut-être qu'ils étaient rémunérés de manière
non,
plus...
puis peut-être qu'il y avait peut-être moins de, aussi de... Je sais pas, soit le monde était plus ouvert, soit il y avait aussi peut-être des conditions de vie des Européens tout court qui étaient meilleures. J'en sais rien, mais en tous les cas, c'est un fait. C'est qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas de problème, quoi.
Non, et puis, une autre chose, c'est qu'il y a... Il y a 40 ans, il n'y avait pas de mafia en Calabre.
Aussi.
Il n'y avait pas de mafia. Non, il n'y avait pas de mafia en Calabre.
Il n'y avait pas de mafia en Calabre.
Il y avait des formes de ce qu'on appelait du brigandage, mais c'était tout différent. Ah ouais. Des brigandages dans les bois de l'Aspromonte, etc. Mais ça existait depuis des siècles. Mais il n'y avait pas de mafia. Maintenant, la mafia calabraise, qui est devenue la plus puissante des organisations criminelles du sud de l'Italie, a pris en main la gestion de l'immigration clandestine. Et c'est une de ses activités principales dans cette zone de Gioia Tauro, qui est essentiellement agricole, et où ce qu'on appelle le caporala, on appelle ça les caporaux qui gèrent les travailleurs immigrés, qui les recrutent, qui disent « Allez, il y a du travail à faire dans telle entreprise. » Actuellement, c'est les agrumes. » Et qui leur prennent 5 euros sur les vins qu'ils reçoivent par jour pour 15 heures de travail. Quelquefois 18 heures, dit-on. Donc, il y a aussi ce phénomène nouveau et qui fait que...
Mais l'esclavage moderne est en développement.
Absolument. Et qui fait que les mouvements, c'est des partis comme la Ligue du Nord ou ses acolytes, ont un terrain, ont une voie ouverte grandiose. Quoi. C'est-à-dire qu'ils s'appuient là-dessus, ils s'appuient sur la misère, ils s'appuient sur des difficultés économiques. Là, il y a un nouveau parti qui vient de se fonder dans le sud de la France, qui pense présenter des candidats d'ailleurs au régional qui s'appelle le Bloc Identitaire. Je ne sais pas si vous êtes renseigné ou allez voir ce que c'est, mais c'est la Ligue du Nord bis, quoi. Hein,
absolument.
Qui sont entre en France de Villiers et Le Pen, hein, grosso modo. Et d'ailleurs, suite à la réunion de fondation de ce parti, parce que le mouvement existe depuis plusieurs années, mais le parti vient d'être créé là, en novembre ou fin octobre 2009. Il y avait évidemment des représentants de la Ligue du Nord, dont Mario Borghesio, qui est député européen. Et il a été décidé de fonder une école européenne des cadres identitaires. C'est grandiose.
Bien sûr. Et puis, bon, c'est vrai que les gens du pays, sur un autre plan, ont réagi, ont manifesté, sont sortis et ont tabassé les Africains qui étaient là.
Ils se sont retournés sur les...
Bien sûr. Mais alors donc c'est vrai qu'il y a le ras-le-bol de ce type d'immigration. Parce que les Italiens n'ont pas une vieille tradition,
de colonie,
racisme.
Entre guillemets,
non,
déjà.
C'était des émigrants, les Italiens. Donc l'immigration qu'ils connaissent maintenant est un phénomène récent. Et puis, il faut souligner aussi qu'il y a quand même eu énormément d'Italiens qui ont protesté contre la mafia locale. Il y a une grande manifestation de solidarité avant-hier
à Bologne.
Solidarité avec nos frères de Rosa Arno contre le racisme. Mais il y a énormément d'associations.
À Rome, il y a beaucoup d'associations qui ont protesté, qui ont agi. Mais même à Rosa Arno même, il y a eu une nouvelle manifestation où là, des habitants et des Africains ont manifesté ensemble.
Ah, et
absolument, oui.
Voilà, enfin, on parlera d'autres réactions. On va peut-être écouter chanson, hein, oui. Si on peut dire. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'on n'a pas trop le... Mais enfin, bon, faut l'évoquer, ce problème, il existe, malheureusement. Hein. Et donc, on va rester en Calabre. Alors, une chanson là, qui va être interprétée par Giovanna Marini, et qui fait référence à un événement qui s'était passé à Reggio Calabria dans les années 70. Et donc, c'est une autre forme d'événement et de lutte, puisqu'à l'époque, il devait y avoir l'attribution du chef-lieu de région. Et donc, il y avait deux villes, Reggio Calabria et Catanzaro. Voilà. Et donc, ça suscitait des vocations, si j'ose dire, pour prendre la tête de la région. Donc, il y a eu des désordres qui ont commencé à exister entre les deux villes, des affrontements, etc. Et comme toujours, bon, ben, c'est les partis d'extrémistes de droite qui ont voulu profiter du chaos. Et notamment, à l'époque, ils étaient dirigés par Ciccio Franco, qui est un bon nom pour un fasciste, hein, Franco, et qui, lui, voulait... A tout fait pour que tout ça dégénère. Et puis, à la limite, c'était une façon pour lui de s'insurger même contre l'État et puis de dominer la région, etc. Puis de faire avancer le MSI, puisqu'il était de ce fameux ce mouvement d'extrême droite des années 70.
Le mouvement social italien, voilà. Qui était le parti néofasciste.
Néofasciste qui existe encore, mais qui a quasi plus personne maintenant comme adhérent. Alors, la chanson, elle fait référence à des trains qui étaient partis d'Italie, hein, des autres régions d'Italie, pour... donc, il y avait 40 000 ouvriers qui étaient partis de différentes régions d'Italie et qui venaient donc à Reggio Calabria pour manifester leur solidarité aux ouvriers locaux et puis pour affirmer aussi les valeurs de la démocratie. Alors bon, je ne vais pas vous lire ou vous traduire toute la chanson. Donc c'est « I treni per Reggio Calabria », les trains pour Reggio Calabria. Mais il y a des passages qui sont intéressants parce que quelque part, on retrouve des événements qui pourraient ressembler à des événements actuels. Donc ces trains partent de toute l'Italie et descendent toute l'Italie. Et quand ils arrivent sur la Calabre, la gare est peuplée de paysans et de bergers qui ont surveillé l'arrivée, hein, avec leurs troupeaux. La Calabre défile sous nos pieds, donc ils arrivent à la gare. Et depuis le toit d'une maison, une grosse dame nous fait les cornes, elle lève la main, et un groupe d'enfants nous regarde passer en faisant le salut romain, ce qui veut dire qu'il y avait quand même des saluts fascistes. Ouais. Ça y est, maintenant nous sommes à Reggio, la station, c'est-à-dire la gare, est noire de monde. Demain, tout sera fermé en signe de deuil. Fais attention, Ciccio Franco. À Sbarre, c'est le quartier de Reggio où il opérait principalement, où il avait son quartier général, si j'ose dire. Le lendemain matin, parce qu'il y avait une manifestation qui est très prévue, le lendemain matin, la peur arrive. Mais le cortège ne réussit pas à partir. Mais les ouvriers de Reggio se sont mêlés aux autres. Ils se sont mis en tête du cortège qui finalement a pu se mettre en mouvement. Il est parti comme un gros serpent avec la tête cuirassée. Les banderoles et les panneaux de manifestation étant sur les côtés comme s'ils enveloppaient le cortège. Les cailloux et les provocations volaient, hein, encore une fois, ça rappelle des mouvements récents. Mais personne ne se retournait. Les ouvriers d'Emilia-Romagna regardaient ceux les mécanos des métallos de Turin et de Milan. Ils se tenaient par la main et progressaient. Les voix brisaient le silence. Et lorsque le silence arrivait, par contre, on entendait la mer et tout le monde regardait ce défilé, etc., etc. Donc, c'est le récit d'une manifestation et la descente de ces trains vers Reggio Calabria pour soutenir les ouvriers locaux et surtout pour que la démocratie soit respectée.
Il 22 d'ottobre del 72, in curva il 3 gran cartelli e scritte a mano. Da Roma Ostense 1200 operai, vecchie, giovani e donne, con i bastoni e le bandiere arrotolate, portati tutti a marcia sulle spalle. Il treno parte, pare un incrociatore, tutti cantano bandiera rossa. Dopo 20 minuti che siamo in cammino, si ferma e non vuole più partire. Si parla di una bomba sulla ferrovia, il treno torna alla stazione. Tutti corrono coi megafoni in mano e richiamano: andiamo via Cassino. Compagni, da quel regio è tutto un campo minato, chi vuole si rimette a cammino. Dopo un'ora quel treno che pareva un balcone ha ripreso la sua processione. Anche a Cassino la linea è saltata, siamo tutti attaccati al finestrino. Roma Ostiense, Cisterna, Roma Termini, Cassino, adesso siamo a Roma Tiburtino. Il treno di Bologna è saltato a Piverna, una notte d'inferno. I feriti tutti sono ripartiti, caricati sopra un altro treno. Funzionari, responsabili, sindacalisti sdraiati sulle reti dei bagagli per scrutare meglio la massicciata. Si sono tutti addormentati, dormono, dormono profondamente. Sopra le bombe non sentono più niente. L'importante adesso è di essere partiti, ma i giovani hanno gli occhi spalancati. Vanno in giro tutti eccitati, mentre i vecchi sono stremati. Dormono, dormono profondamente. Sopra le bombe non sentono più niente. Famiglie dalle altre generazioni sono venute tutte insieme da Torino, vanno dai parenti, fanno una dimostrazione. Dal treno non è sceso nessuno, la vecchia e la figlia alle rifiniture, il marito alla verniciatura, la figlia della figlia alle tappezzerie. Stanno in viaggio ormai da più di 20 ore, aspettano seduti sereni e contenti. Sopra le bombe non gliene importa niente, aspettano che è tutta una vita che stanno ad aspettare per un certificato, mattinate intere, anni e anni per due soldi di pensione. Erano 23 anni più forti del titolo, guardare quelle facce bastava solo. Con la notte, le stelle, con la luna, i binari stanno luccicanti, mai guardati con tanta attenzione. E camminando sulle traversine, mai individuata una regione, dai sassi della massicciata, dalle chine di erba sulla vallata, dai buchi che fanno entrare il mare, piano piano a passo d'uomo. Pareva che il treno si facesse portare, tirato per le briglie come un cavallo tirato dal suo padrone. A Napoli la galleria illuminata, bassa e sfasciata con la fermata, il treno che pare un balcone. Qualcuno vuol salire, attenzione, non fate salire nessuno, può essere una provocazione. Si sfoggiano coi megafoni in mano e un piede sullo scalino, e gridano, gridano quello che era in mente. Sono comizi la gente, sento, ora passa la notte con la luce, la ferrovia è tutta popolata, contadini e pastori che l'hanno sorvegliata, col greggio sparpagliato. La Calabria ci passa sotto i piedi, ci passa dal tetto di una casa una signora grassa, fa le corna e alza una mano, e un gruppo di bambini ci guardano passare e fanno il saluto romano. Ormai siamo a Reggio e la stazione è tutta nera di gente. Domani chiuso tutto in segno di lutto, ha detto Ciccio Franca a sbarre. E alla mattina c'era la paura e il corteo non riusciva a partire, ma gli operai di Reggio sono andati in testa. Il corteo si è mosso improvvisamente, è partito appunto come un grosso serpente con la testa corazzata. I cartelli schierati lateralmente l'avevano tutto fasciato, volavano sassi e provocazioni, ma nessuno se n'è pure voltato. Gli operai dell'Emilia Romagna guardavano con occhi stupiti, metalmeccanici di Torino e Milano puntavano in avanti tenendosi per mano. Le voci rompevano il silenzio e nelle pause si sentiva il mare e il silenzio di quelli fermi che stavano a guardare. E ogni tanto dalle vie laterali si vedevano i sassi volare. Alla sera Reggio era trasformata, pareva una giornata di mercato. Quanti abbracci e quanta commozione, il nord è arrivato nel meridione. La sera Reggio era trasformata, pareva una giornata di mercato. Quanti abbracci e quanta commozione, gli operai hanno dato una dimostrazione.
Voilà, i treni per Reggio Calabria. Juste une petite dernière chose dans les réactions. Et les syndicats italiens réfléchissent en ce moment à une journée d'action au mois de mars. Mmh. Ils sont inspirés d'un bouquin qui s'appelait Blacks Out, et qui fait référence à un jour où en Italie, d'un seul coup, il n'y aurait plus d'immigrés. et pour s'apercevoir que tout serait bloqué, en fait. C'est-à-dire que la vie ne pourrait plus fonctionner. Mmh. Et donc, les syndicats vont essayer de s'appuyer sur l'idée de ce bouquin pour essayer d'organiser, mais ça risque de pas être simple quand même, une journée où plus aucun immigré n'ira travailler. Et alors, c'est intéressant à... ça serait intéressant à voir, mais je crains que ce soit difficile à mettre en place. Mmh. Et donc, la République a fait des tas d'articles. Ils prennent l'exemple d'une petite ville du Nord, là, près de Padoue, où, bon, dans différents métiers, que ce soit chez le boulanger, le boucher, même dans les clubs de sport, etc. En fait, il y a beaucoup, beaucoup d'immigration. Et puis, si tous ces gens s'arrêtent de travailler, ben là, peut-être qu'on va prendre conscience que... Ils ont une importance même au-delà de l'humain pour l'économie locale, quoi, tout simplement.
Et le football italien perdrait des plumes si les Africains.
Le football français aussi.
Comme le football français.
Je voulais, à propos de cette immigration, rappeler un bouquin d'un journaliste italien qui a reçu des tas de prix, que ce soit en Italie ou ailleurs, même en France d'ailleurs, qui s'appelle Fabrizio Gatti. Et en français, le livre existe sous le titre « Bilal sur la route des clandestins ». Donc il s'est mêlé aux clandestins. Bon, il avait pris quelques menus monnaies cachées dans un tout petit tube pour pouvoir vivre. Et puis, il est parti de Dakar, en fait. Et il a accompagné des clandestins, et surtout leur parcours jusqu'en Europe, que ce soit en Italie, en France ou en Allemagne. Et il explique merveilleusement bien quelles difficultés ils doivent affronter, et leur quotidien qui est dramatique, quoi. Donc je rappelle le titre, Fabrizio Gatti, Bilal sur la route des clandestins. Voilà, on parlait tout à l'heure dans les ouvriers qui descendaient à Reggio Calabria, des gens du Piémont, de Turin, et je crois que tu voulais nous donner une information sur la Fiat.
Oui, sur la Fiat. Alors, on reste dans le sud parce que c'est sur la filiale de la Fiat.
C'est pour ça l'idée de descendre de Turin au sud.
Qui avait été ouverte à Termini Imerese, c'est-à-dire près de Palerme, en Sicile, puisque la Fiat avait décentralisé, délocalisé en Italie une bonne partie de ses usines. La production de Turin avait cessé d'être dominante. Or, la direction de la Fiat vient de laisser entendre qu'elle arrêterait la production de voitures dans l'usine de Termini Imerese en 2012. Ce qui a provoqué aussitôt une réaction très vive du personnel des trois syndicats, la FIM, la FIOM et l'UILM, une réaction très très vive de blocage de l'usine, disant mais il n'y a pas de raison de fermer cette usine, et puis on veut savoir quels sont les projets. Il y travaille quand même 1350 personnes, plus 600 qui sont occupées dans des entreprises qui dépendent de la production de voitures. Et c'est d'autant plus étonnant que, d'une part, à la fin de 2009, les syndicats avaient proposé un plan industriel pour que, pour la Fiat du Nord, pour le Lingotto, pour que le Lingotto soit grand, disait-il, pas seulement à l'étranger, parce que maintenant c'est un centre connu et très visité, mais surtout en Italie. Et on pourrait y produire 1 million de voitures, disent les syndicats. Et actuellement, c'est d'autant plus étonnant aussi que la Fiat est en train de remonter par rapport à la voiture européenne. En octobre, elle a réalisé une meilleure performance que la moyenne européenne. Elle a vendu plus de 105 000 voitures, 18% en plus par rapport au mois d'octobre 2008. Mmh. Donc c'est énorme. Et cette année, le groupe Fiat enregistre un résultat qui va à l'inverse du marché global, qui est en hausse de 3%. Tandis que le colosse de Turin augmente son volume de production de 4,3% avec 1 025 000 immatriculations pour l'année et obtient un pourcentage de 8,9% en plus par rapport aux 10 premiers mois de 2008. Donc la Fiat est plutôt en train de remonter. Et c'est pourquoi on s'interroge sur...
L'usine va aller en Chine.
Alors, on ne sait pas. Marchionne n'a rien dit actuellement. Et ils disent non, mais c'est en discussion. Ils hésitent parce qu'ils ont peur, là aussi, des réactions des syndicats qui, en Italie, sont plus actifs et plus nombreux, surtout, que chez nous. Et là encore, ces phénomènes d'un grand patronat qui ne voit absolument pas quels sont les intérêts, quel est l'intérêt public, quels sont les intérêts des gens qui travaillent ici, quel est l'intérêt du peuple local, mais qui ne voit que la décision à prendre en fonction de l'intérêt de l'entreprise, c'est-à-dire de la holding qui dirige l'entreprise.
Oui, des résultats financiers.
Des résultats financiers. C'est absolument affolant. Ouais. De même qu'on ne se préoccupe pas, pour revenir au problème de Rosarno, de faire ce qu'il faut pour le développement de l'Afrique.
Un développement
économique réel de l'Afrique qui ne se fait pas actuellement et qui pousse les gens à chercher ailleurs une vague possibilité de survie en fonction...
C'est de la survie, en fait.
C'est de la survie.
Exactement. Quelqu'un qui meurt de faim, même si on le remet dans son pays, il va repartir le lendemain.
Mais de la survie qui nous sert.
Bien sûr.
Dont on profite.
Et oui, c'est de la colonisation un peu.
C'est une forme nouvelle de colonisation. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on n'est pas conscient de ça. Et que rien dans l'information, dans la télé, dans la presse...
Je ne sais pas si on n'est pas conscient, mais en tous les cas, on va à l'inverse. C'est-à-dire, la conscience, elle existe peut-être, mais on s'enferme dans des...
mais on se sent impuissant.
Alors après,
en tant que citoyen moyen,
voilà, est-ce que qui on met derrière le haut en fait quoi, voilà.
Bien sûr.
En tant que citoyen moyen, se dit qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors il faut faire partie de structures qui mènent qui se révoltent quoi, qui font quelque chose. Mais voilà, il faut faire partie de ces structures-là.
Oui, bien sûr. Mais moi, je suis quand même effaré de l'information qui a été donnée en France. On en a conclu à une Italie raciste, à une Italie où il y a dans l'inconscience des gens, enfin, ou dans l'impression d'impuissance, il y a aussi cette information truquée qu'on nous donne quand il y a un problème comme celui-ci, qui touche aussi à nos discussions actuelles telles qu'elles ont été engagées sur l'identité nationale, l'immigration, etc. quoi. Pourquoi ? Parce qu'en Italie, comme en France, il y a au printemps prochain des élections régionales que le pouvoir a peur de perdre. C'est tout. Dans l'immédiat, c'est la raison principale. Or, moi, j'ai discuté avec mon groupe de langue lundi de ce problème et j'ai vu les réactions qui sont sorties d'après ce que les gens avaient entendu dans la télévision.
Mais c'est bien le gros problème. Puis j'allais dire c'est logique, c'est pas logique, non, mais on entend, on voit, on dit ce qu'on a entendu et vu. Si on cherche pas plus loin, ou si on n'a pas le temps, ou si on n'a pas les moyens de chercher. Mais alors, le problème, c'est qu'il y a toujours une part de vérité dans ce qui est énoncé, hein,
bien sûr.
Disons que tout ça, c'est une conséquence et qu'il faudra peut-être de temps en temps se soucier de savoir pourquoi.
Et puis, il y a un problème réel, quoi.
Il y a un problème réel
dans les conditions actuelles dans lesquelles on fait venir, on laisse venir les immigrés, au-delà des discours comme notre ministre qui expulse cet Algan.
Il y a des choses incohérentes.
Par exemple, des quotas.
les gens vont écouter ça, ils vont compatir et tout, ils vont dire oui, il y a un problème et tout, mais ça ne va pas les empêcher dans la semaine qui suit de s'inscrire dans un club à Marrakech. Où il y a des piscines et où ils empêchent les gens d'irriguer leur plantation pour remplir la piscine ou pour arroser le golf.
Absolument.
Alors, à ce moment-là, il faudrait peut-être commencer par avoir un comportement cohérent par rapport à ça.
Non, mais ça, c'est une évidence.
Il y a un type de tourisme africain qui est fin, quoi. Bien sûr. Voilà. Bon, Chantal, avant d'écouter une autre chanson, tu voulais nous parler d'autre chose.
Oui, alors, bien sûr, après ces sujets sérieux et qui nous tourmentent,
ça va
paraître un petit peu plus léger.
Non, mais bon.
Oui, alors, je voulais parler du Maxi Museo, le Maxi Museo Nazionale delle Arti del, comment on dit, 21e
Ventunesimo secolo,
qui a été inauguré à Rome le 13 novembre 2009. Et donc, Rome possède enfin son temple consacré à l'art contemporain, ce qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Et ce musée donc a été inauguré comme une coquille vide, car il ouvrira ses portes au public seulement en mai 2010.
D'accord.
Alors, l'architecte britannique d'origine irakienne, Zaha Hadid, a remporté le concours en 1998 sur 273 candidats. Son projet a été choisi par le jury par sa capacité à s'intégrer dans le tissu urbain sans rompre l'équilibre de l'environnement, parce qu'il est entouré d'immeubles du 19e dans le quartier Flaminio de Rome.
Oui.
Il se glisse en effet d'une manière extraordinaire. Moi, j'ai vu les photos sur le site du Maxi et c'est vrai que c'est superbement intégré. Donc, le chantier a duré 10 ans. Il a coûté 150 millions d'euros pour 21 000 m², dont 10 000 m² d'exposition et le reste en auditorium, bibliothèque, médiathèque, librairie, cafétéria, bar, restaurant. Les musées sont conçus à présent comme des petites cités où les gens peuvent passer la journée, déambuler, presque comme un centre commercial, quoi. Donc la fonction du Maxi, sur le site du Maxi, il est présenté d'abord comme le premier musée national consacré à la création contemporaine en Italie. Il va abriter deux institutions, le Maxi Art et le Maxi Art Architecture. Pour l'instant, la collection du Maxi Art se limite à 350 œuvres qui vont être donc ouvertes au public en mai 2010. Andy Warhol, Anish Kapoor, Gerhard Richter et d'autres. Enfin bon, j'ai pas le détail. Donc la mission première du Maxi est de promouvoir l'art et l'architecture du 21e siècle et de recueillir la créativité artistique contemporaine, de préserver, d'étudier et de la mettre à la disposition du public. Alors le bâtiment. Le Maxi, il est tout en béton, en acier, en verre et il joue avec les effets de miroir, avec les édifices justement qui sont autour, des édifices du 19e. À l'extérieur, on peut voir une architecture très aérienne, très fluide, caractérisée par des entrelacs de lignes très tendues, avec des courbes et des enroulements, des superpositions de plans. À l'intérieur, on a le même étirement, la même fluidité, un jeu sur la lumière avec une alternance de la lumière naturelle qui passe par une résille de métal qui se trouve au toit et la lumière artificielle. Alors le visiteur chemine sans fin dans le musée par un escalier qui est très étiré aussi, comme un serpent. Et donc il chemine et d'après le... je reprends un terme de Zaha Hadid, c'est une phrase très très conceptuelle, architecture conceptuelle, comme une sorte de complot spatial et fonctionnel. Voilà. Ensuite, l'architecte. Alors Zaha Hadid a le vent en poupe en ce moment. Elle est devenue incontournable. Elle fait partie aujourd'hui des stars de l'architecture. Elle a été l'élève puis le disciple du gourou du déconstructivisme, l'architecte néerlandais Rem Koolhaas, adepte du chaos urbain. Elle devient sa collaboratrice en 1977, puis en 1987, elle fonde sa propre église à Londres. En 2004, elle reçoit le Pritzker Prize, qui est l'équivalent du Nobel de la paix pour l'architecture. Alors, pour finir, je vais vous lire un petit article de Frédéric Edelman. Une petite critique. Il est journaliste du journal Le Monde. Alors voilà ce qu'il écrit. On retrouve des constantes dans ses projets, la flexibilité, l'usage du béton, des formes les plus opposées aux lois ordinaires de la gravité, tout un langage formel qui, si étendu soit-il, contient le risque d'un style qui tourne à la répétition de 3 ou 4 stéréotypes. Comme les vins charpentés et boisés qu'a universalisé le guide Robert Parker, L'architecture, selon Hadid, a fait oublier son propos radical par ses qualités plastiques, en premier lieu, mais aussi par son caractère répétitif et facilement reconnaissable. Voilà, il est d'usage aujourd'hui que les grandes cités possèdent un musée signé par une star de l'architecture, reconnaissable, une signalétique que l'on voit de loin, une sorte d'église ou temple dédié à l'art contemporain. Un anthropologue... Un anthropologue pose la question, l'art sera-t-il la religion du troisième millénaire ?
Aïe, aïe, aïe. C'est un bel exemple de mondialisation.
Voilà, voilà, exactement. Donc, moi, j'invite ceux qui sont intéressés à consulter le site du Maxi, qui est très, très bien documenté. On voit des photos de la construction en cours. Enfin, c'est très, très bien fait.
Et puis, il faudra intégrer ça si on fait un voyage à Rome.
Oui, ça vaut peut-être le coup d'œil.
Bien sûr.
Ça vaut peut-être le coup d'œil.
On écoute une chanson de Bertelli.
Oui, alors, tout à l'heure, j'ai dit que je vous conseillais un livre de Fabrizio Gatti. Suite à la parution de ce livre, il y a un spectacle maintenant qui tourne en Italie où Gatti lui-même lit des extraits de son bouquin, mais dans un spectacle-concert, on va dire, où le chanteur est Gualtiero Bertelli, que nous connaissons bien, accompagné de Raquel et Colombo, qui est l'ex-chanteuse de Calicanto. Alors, on va entendre Gualtiero dans une chanson là, de Sergio Endrigo, qui s'appelle « Il treno che viene dal sud ». C'est toujours une chanson sur l'immigration. Là, c'était une émigration du sud vers le nord de l'Italie, puisqu'on parlait d'immigration. L'immigration interne. Et là aussi, ça, elle illustre bien tout ce que peut être cette délocalisation humaine, en disant « Du train qui vient du sud descendent des hommes sombres qui ont, qui ont plein d'espoir, mais au fond de leur cœur, ils sentent que cette nouvelle, cette belle société, cette nouvelle, cette grande société ne se fera pas. » Il treno che viene dal sud.
Il treno che viene dal sud non porta soltanto Marie con le labbra di corallo e gli occhi grandi così. Porta gente, gente nata fra gli ulivi. Porta gente che va a scordare il sole. È caldo il pane lassù nel nord. Nel treno che viene dal sud, sudori e mille valigie, occhi neri di gelosia. Arrivederci Maria, senza amore è più dura la fatica, ma la notte è un sogno sempre uguale, avrò una casa per te, per me. Dal treno che viene dal sud discendono uomini cupi che hanno in tasca la speranza ma in cuore sentono che questa nuova, questa bella società, questa nuova grande società non si farà.
Voilà, c'était Gualtiero Bertelli. Alors, pour terminer, deux mots sur une manifestation italienne importante chaque année, c'est le Festival de San Remo, qui va se faire cette année du 16 au 20 février prochain. C'est un des deux festivals de San Remo. Il y a celui-ci en février, qui est le vieux festival de la chanson italienne, créé en 1951. Et puis, il y a en octobre le festival du Club Tenco, qui est le festival de la chanson d'auteur, et dont on ne parle jamais, ni de l'un ni de l'autre d'ailleurs, dans la presse française. C'est assez étonnant. Alors, il y a une chose nouvelle pour le prochain festival, c'est qu'on vient de réécrire l'article 6, qui disait que les chansons, pour être admises à San Remo, devaient appartenir à la langue italienne. Alors maintenant, la nouvelle rédaction de l'article 6 dit ceci. Les chansons devront être en langue italienne. On considère comme appartenant à la langue italienne, comme expression de culture populaire, des chansons en langue dialectale italienne. Et ne mérite pas d'être éliminée les chansons italiennes qui comprendraient des mots ou des locutions en langue étrangère, à condition qu'elles ne dénaturent pas le caractère global italien du texte. Donc, alors on a beaucoup discuté là-dessus parce que on admet les chansons dialectales. On reconnaît, c'est la première fois, en chanson dialectale. Avant, on ne pouvait avoir que des chansons qui avaient des mots ou des locutions dialectales. Maintenant, on va pouvoir avoir des chansons en dialecte. Alors, c'est assez intéressant parce que, évidemment, Bossi, la Ligue du Nord, a tout de suite triomphé en disant « Mais c'est nous qui avons obtenu ça parce qu'il y a longtemps qu'on le demande. » En fait, c'était demandé déjà par la municipalité de San Remo et par un certain nombre d'organismes. Le problème, c'est que parmi les gens qui sont sélectionnés cette année, d'une part, il n'y a pas de chanson dialectale, il n'y a pas de chanteur dialecto. C'est assez amusant. C'est une manœuvre de propagande parce que le Festival de San Remo, c'est plus quoi faire pour se revaloriser parce qu'il est en train de... Et depuis des années, il est en train de sombrer dans une médiocrité pas possible. Donc, on a admis les chansons dialectales, sauf qu'il n'y en a pas. Et puis, on oublie que depuis très longtemps, même la chanson d'auteur se fait
en dialecte.
En dialecte. Pas seulement la chanson napolitaine, mais la chanson sarde. Il y avait eu l'État de Senda, qui était d'ailleurs passé à San Remo. Et puis, des Vénitiens, il y avait le groupe Pittura Fresca, etc. Alors ça, voilà, c'est une des choses de San Remo. Et puis, dans le choix qui est fait des groupes qui vont passer, on s'aperçoit que, d'une part, on a éliminé un groupe qui s'appelle Analisi Logica, qui avait fait une chanson, qui avait proposé une chanson dont le thème était un enfant qui avait perdu ses deux jambes parce qu'avait explosé sur une bombe,
une mine antipersonnelle.
Et qui était, je l'ai entendu, on peut l'entendre sur le site de Repubblica. C'était une chanson qui était aussi belle, mais qui a été considérée comme contraire au règlement de San Remo. Alors, les Analisi Logica dit non, c'est une censure politique. On n'a pas voulu présenter une chanson qui posait un problème politique important, toutes les guerres qu'il y a actuellement, etc. Et puis l'autre aspect, alors à l'inverse, qui a été sélectionné pour chanter à San Remo? Emmanuel Philibert de Savoie, le prince Emmanuel Philibert de Savoie, qui va venir chanter avec un chanteur très médiocre, avec le célèbre Pupo et le ténor Canonici. Alors avant, il faisait de la danse, et puis il se lance dans la chanson maintenant. Qu'est-ce qu'on ferait pas ?
C'est un homme complet.
C'est un homme complet, voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas ? Il avait essayé la piste politique. Il était candidat sur une liste européenne de l'UDC, mais il avait obtenu 4500 voix sur toute l'Italie. Alors il s'est lancé dans la danse, et puis maintenant, il va passer à San Remo avec une chanson qui s'appelle
s'appelle Je chante mon amour pour l'Italie ou quelque chose comme ça. Je retrouve pas le titre, précis. Et là, on lui a demandé.
On va peut-être pas le retrouver non plus. D'ailleurs.
Non. On lui a demandé si ça posait pas de problème. Il dit que ses parents étaient surpris. Ses parents, les héritiers. Voilà. Je crois qu'on n'écoutera pas la chanson qu'on avait prévue.
Mais non.
Ou alors on peut la lancer, puis tu as le temps de nous donner une...
Très courte.
Très courte.
Une recette.
On lance la première chanson de Sanremo, Grazie dei fiori.
Des coquillettes à la ricotta. Il faut 400 g de ricotta fraîche, de brousse ou de fromage blanc bien égoutté, 4 cuillerées de pecorino râpé ou de parmesan, 400 g de coquillettes, du sel et du poivre. Il faut porter une grande quantité d'eau salée à ébullition pour cuire les coquillettes. Dans une grande assiette, travaillez la ricotta avec 2 pincées de sel, une bonne quantité de poivre, 2 cuillerées d'eau de cuisson, des pâtes. Écrasez bien le tout à l'aide d'une fourchette. Cette opération vous aura pris 10 à 12 minutes et pendant ce temps, les coquillettes seront cuites. Égouttez-les, enrobez-les de ricotta. On peut saupoudrer aussi de fromage râpé. Et voilà, et c'est tout simple, et c'est fait très rapidement.
Et c'est très bon. Voilà, au revoir à tous, et
au revoir.
À la prochaine émission.
À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS, le quatrième jeudi de chaque mois, de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition.
Chansons.
Gastronomie.